littoraux poétiques. Littoraux poétiques, l'émission où la terre et la mer s'entremêlent. Partez à la rencontre d'un chercheur ou d'une chercheuse au travers d'une œuvre. Épisode 2, autour de l'ivresse des grèves de Yvon Lecor.
Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Alix Levin, je suis anthropologue au CNRS au laboratoire Amur à Brest et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Yves-Marie Paulet qui est professeur à l'Université de Bretagne Occidentale, biologiste marin et écologue. Nous allons discuter ensemble autour d'une œuvre singulière, celle d'Yvon Lecor, marin, peintre, écrivain, qui a inspiré de nombreuses aventures artistiques et maritimes sur des voiliers anciens. Nous nous retrouvons en particulier autour du dernier livre qu'Yvon Lecor a fait paraître avant sa disparition en 2020, L'ivresse des grèves. C'est un carnet de voyage, comme il en a beaucoup réalisé, mais cette fois-ci peut-être un voyage presque immobile et au centre du mouvement des milieux littoraux. Yves-Marie, tu arrives tout doucement au terme d'une carrière d'enseignant-chercheur qui t'a conduit à arpenter bien des littoraux. Mais avant de t'y lancer, est-ce que tu entretenais un lien particulier avec ces milieux? Et si oui, dans quelles circonstances cela tu tissais?
Bonjour. Je crois que j'ai du mal à définir le début de tout ça, de cet attachement aux littoraux et de cet intérêt professionnel pour ces milieux. Familialement, j'ai les pieds dedans, je dirais. Une partie de ma famille est plutôt dans le poisson. L'autre est dans les bateaux. Et donc, tout petit, c'était mon monde. Tout petit, j'ai dû courir les grèves. Et je fais partie de ces gens à qui, lorsqu'on nous pose la question « qui t'a appris à godiller ?», ben, je dis « je ne sais pas, j'ai appris ça comme on apprend à marcher. Donc, je ne sais pas qui me l'a appris. » Donc, oui, j'étais bien enraciné et assez naturellement, avec des questionnements malgré tout sur la façon d'aborder le sujet, c'est devenu une activité professionnelle.
Tu te définis professionnellement à la fois comme biologiste au sens disciplinaire du terme et comme écologue par les cadres d'analyse que tu mobilises et puis par ta pratique scientifique. L'idée de littoral fait-elle sens selon toi pour les communautés de recherche dans lesquelles tu t'inscris? Et si oui, de quelle façon? Et est-ce que ces façons-là, elles ont évolué dans le temps sur le cours de ta carrière?
Alors, le terme lui-même, le terme littoral, est peu entendu dans ma communauté, qui est communauté d'origine, qui est celle de la biologie marine. J'ai commencé comme éco-physiologiste, étudiant le fonctionnement des organismes, puis étendant mon champ vers des questions plus d'écologie, je dirais, de manière de plus en plus interdisciplinaire. Mais le mot littoral est un terme vu de ma communauté qui est réservé ou qui vient de la géographie. Le littoral, ma communauté considérait ça avant tout comme la partie terrestre et le début de l'interface. Mais le littoral n'est pas une question de biologiste marin. Alors ça, c'est un peu le début, mais évidemment, le littoral intègre en général la zone de balancement des marées, donc devient très salé assez rapidement malgré tout. Et c'est une zone sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et si on parle d'évolution de la perception par ma communauté de ce monde de l'interface, moi je l'ai vu énormément évoluer, mais même assez récemment, avec, et je dirais qu'il y a eu un effet plastique. La question des plastiques, du microplastique, de tout ce qui descend vers la mer, a joué un rôle de marqueur. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de la communauté des biologistes marins, océanographes ou autres, reconnaît qu'effectivement, la grande problématique des eaux productives côtières, c'est le continent. Donc, évidemment, ils mettent immédiatement le pied dans le littoral. Et donc, voilà, cette interface est devenue une continuité dans les esprits. On n'est pas au bout du chemin parce que toutes les disciplines se sont construites entre le terrestre et le marin. Mais voilà, ça prend du sens plus que jamais aujourd'hui avec cette évolution, je dirais, globale et mondiale des eaux littorales.
Et toi, à titre individuel, comment ces évolutions se retrouvent-elles dans ta façon d'aborder dans ton travail le milieu marin ?
La biologie des organismes était considérée dans mon monde comme une approche d'une mécanique physiologique relativement indépendante de son environnement, de là où elle se produisait. Et à la méthode des physiologistes, on pouvait ramener un animal, le poser sur la paillasse au laboratoire et dire « je vais étudier la biologie ». Et évidemment, on a probablement, sous la pression des changements environnementaux, on a vite perçu que ça ne pouvait pas durer. Et on a commencé à tout faire pour approcher la physiologie des organismes dans leur milieu. Et c'est là que, si je prends une espèce sur laquelle j'ai particulièrement travaillé, qui est la coquille Saint-Jacques, c'est là que la question de la qualité de l'environnement, et notamment pour les côtes bretonnes, de la qualité du plancton que cet animal pouvait ingérer, ce qu'il pouvait filtrer dans l'eau, eh bien, on est remonté finalement avec cette question du plancton sur la question des sels nutritifs dans l'eau, sur la question mais d'où viennent ces sels nutritifs, de quel sol, etc. Donc on a vraiment vu ce cheminement se faire, et dans ma recherche personnellement, on a commencé à ouvrir le champ non plus comprendre une espèce de comprendre la nature et le mécanisme biologique de notre animal, mais vraiment de sentir les variations de ce fonctionnement en fonction des pressions environnementales. Et sur ce modèle coquille Saint-Jacques, on a pu avancer pour la coquille Saint-Jacques, mais plus globalement pour la biologie des organismes soumis à des contraintes environnementales.
Ici, l'on se coule dans ses racines premières. L'on revit avec les forces qui émergent alors. L'on retrouve les émotions intactes. L'on touche du doigt la générosité de ce qui compte dans la vie. Dans ce lieu, des dizaines d'années de fréquentation m'y ont tissé une longue mémoire. Peut-être la première émotion que l'on ressent dans ce paysage qui s'ouvre et se ferme au rythme des marées est que c'est un monde qui est promis. Puis qui se refuse. Accepter alors sa discipline et ne point en vouloir plus.
Lorsque nous avons préparé cette émission ensemble, Yves-Marie, des livres très différents se sont présentés à ton esprit. Et puis tu as longuement hésité avant de choisir « L'ivresse des grèves » d'Yvon Lecor, dont nous venons d'écouter deux extraits. Est-ce que tu peux nous décrire ce livre et nous parler de lui et puis aussi de son auteur ?
Oui, c'est vrai, j'ai eu plusieurs idées en tête quand tu m'as proposé donc de cette réflexion et ce partage autour d'une œuvre. J'ai pensé à Victor Hugo, j'ai pensé à Mathieu Durex, etc., à plusieurs personnes. Pourquoi Yvon Lecor ? Je crois d'abord que pour moi, c'est un auteur trop peu connu et c'est un multi-art, puisque s'il écrit, il peint, et c'est d'ailleurs surtout pour sa peinture qu'il a été le plus connu. Et je pense que comme moi, c'est un arpenteur des grèves. Il est comme moi fasciné par les rythmes, et je voulais partager avec vous cet amour de cette interface qui n'en est pas vraiment une, de ce milieu qui n'a pas de nom finalement, qui est ni terre ni mer. Et Yvon Lecor, donc, c'est en plus une personnalité, je ne dirais pas un guide ou un modèle, mais quelqu'un qui, dans son approche du monde, dans sa modestie et en même temps dans la profonde richesse de son approche du monde, sa simplicité me sert de guide parfois.
Comment as-tu rencontré l'œuvre d'Yvon Lecor et à quelles expériences personnelles associes-tu cette lecture ?
Alors, Yvon Lecor, je l'ai peu rencontré, je ne l'ai pas connu personnellement. Je l'ai rencontré, on a pu s'adresser la parole, mais ce n'est pas une connaissance personnelle. Ça remonte aux années 80, je dirais. D'abord, je tombe sur un ouvrage qui s'appelait « Carnet d'Irlande ». Et c'est une époque où je fréquentais un peu l'Irlande et j'ai été bouleversé par son travail graphique à son retour d'Irlande, où il avait passé avec en navigation pas mal de temps sur les côtes irlandaises, été autant qu'hiver, et je dirais autant qu'hiver, c'est ça qui est intéressant chez Yvon, c'est sa capacité à ne rien rater, à ne rien laisser de côté. le plus dur de l'hiver irlandais, il l'a connu. Donc ça, ça a été un choc pour moi. Et le second moment, c'est près d'ici. Hein, c'est les fêtes, les premières fêtes maritimes, Portsmer, les années 80. Et la rencontre, et c'est un tout petit peu plus tard, c'est à Douarnenez, la première fête de Douarnenez. Je ne sais pas si c'était en 84 ou en 86, peu importe. Mais il est venu avec sa chaloupe sardinière, Eli Bouban, l'un des premiers bateaux construit sur un modèle ancien dans cette époque du début du chasse-marée, etc. Et j'ai vu un bateau qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on avait l'habitude de voir en termes d'apparence. Ce n'était pas du bois verni, ça n'était pas la belle plaisance, c'était un bateau profondément authentique. Et c'est probablement une image qui ne m'a jamais quitté. C'est que le matériau, l'austérité, la fidélité, tout ça apparaissait en regardant au port du Rosmer Eli Bouban qui était échoué là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu, je dirais, le travail et l'œuvre d'Yvon Lecor.
L'ivresse des grèves n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre qui mêle peinture, écriture, écriture manuscrite. Est-ce que tu peux nous décrire l'objet lui-même ?
Oui, c'est un livre à deux voix. Yvon Lecor nous fait entendre sa voix d'écrivain et celle de peintre. C'est un livre étonnant d'abord parce que c'est un beau livre, mais c'est un fac-similé d'un manuscrit. C'est directement son cahier qui est dans ce livre. Et le texte fait écho aux œuvres picturales. Sans décrire, sans dire ce qu'il y a sur l'œuvre, mais donne le creuset, le contexte dans lequel l'œuvre naît. Et je trouve ça tout à fait magnifique, assez rare finalement. Et donc on a un texte, non pas une explication de l'œuvre, mais autre chose. Comment l'œuvre, dans quelles circonstances l'œuvre va naître. Circonstances, je veux dire, quelles sont les sensations, les forces de ce milieu qui est cette zone littorale, permettent la naissance de l'œuvre. Donc oui, c'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut feuilleter. Je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ce qui est également touchant et intéressant, c'est que c'est la dernière œuvre d'Yvon Lecor, enfin le dernier texte écrit et publié en tout cas. C'est « La mer » d'un homme qui n'a plus la force des grandes traversées, qui, après avoir pendant des années sillonné l'Atlantique, les zones les plus polaires, après avoir écrit ses journées au Brésil, à Madère, au Cap-Vert, etc., n'a probablement plus la force de telles traversées et se pose sur les littorales. Et clairement, c'est l'œuvre de la fin d'une vie, une vie pleine de bonheur transcrit, mais aussi de tristesse face à un monde qui change, face à l'oubli finalement de ces... Par une technologie, il parle souvent, il est un petit peu... Comment dire ? Il y a de la nostalgie, mais il y a aussi cette critique de la technologie d'aujourd'hui, celle du plastique, celle du bruit, celle de la facilité. Et il y a certainement quelque chose comme un document testamentaire dans cet ouvrage.
Le violet, c'est le marnage. Ici, on était presque au bas de l'eau et moi dans le petit canot pour dessiner. J'en ai fait une peinture qui disait « Il doit se passer quelque chose là-haut ». Toujours ce haut qui m'attire. Lumière d'en haut sur les sables, scintillement inouï à contre-soleil, vent libre courant à travers les lagunes, estran immense, roche blanche découvrant à l'infini, lagune bleue outre-mer. Difficulté de savoir la véritable couleur de ces taches d'eau dans les sables, à contre-lumière. Sont-elles sombres ou lumineuses ? Elles sont intenses de toute façon, profondes de couleur, on voit le fond sous l'eau, plus ou moins ocré, et la peau lumineuse sur le dessus, véritable dilemme. Ce matin, tôt, la mer n'a pas fait de bruit, mais elle était là. Ciel tout gris, la côte dans le brouillard. Mais ici, l'air était lisse, doux, intime, immobile. En bas, du moins, au ras de l'eau où j'étais partie marcher, jubilant d'être seul à nouveau sur les immenses grèves. Le dernier voilier, celui qui avait des enfants si joyeux, qui dansaient sur la plage dans le soleil, était parti hier soir. Moment de grâce où tout se remet en place, comme dans une chose rêvée, souhaitée. Mais de se retrouver ainsi, marchant dans l'eau le matin, au saut de la couchette, juste descendre du bateau, il m'est arrivé de me dire que je rêvais effectivement, et il fallait tout regarder alors pour se convaincre de la réalité.
Tu as évoqué, Yves-Marie, à quel point tu étais touchée par la dimension très artisanale du travail d'Yvon Lecor, son exigence, son refus de l'artifice, et puis son attention extrême à la matérialité. C'est une écriture, on vient de l'entendre, qui est pleine de matière, de couleurs, de mouvements aussi.
Oui, je crois que ce qui reste le plus fort en moi, la lecture d'Yvon Lecor est si proche de ma démarche, c'est le rythme. Il nous parle du rythme des marées, dans cet ouvrage et dans bien d'autres, il nous parle du rythme des saisons et nous parle aussi des grandes tendances planétaires, de cette dégradation qu'il observe. Et ça, c'est quelque chose qui profondément dans mon travail me suit. Pour revenir à mon animal fétiche, la coquille Saint-Jacques, finalement, dans sa vie de chercheur, on fait peu de ce qu'on pourrait appeler des découvertes. Mais avec mon équipe, dans les années 90, on découvre justement ces questions de rythme dans l'animal parfaitement enregistré. Et on s'aperçoit que sur une palourde dans sa coquille, si on la regarde bien avec les bons outils de la science, on s'aperçoit qu'elle marque chaque marée basse. Chaque marée basse, il y a une marque dans l'animal. C'est un véritable calendrier. Sur la coquille Saint-Jacques, on s'aperçoit que chaque jour, elle nous informe de la qualité de l'eau qu'elle a connue. Et donc, toute cette rythmicité des milieux, finalement, c'est a posteriori qu'on se dit ça, mais je crois que c'est ce qui guide mes recherches. Ce temps rythmé, et puis ces grandes dérives, celles que l'on vit aujourd'hui. Donc, chez Yvon Lecor, je pense que c'est ce qui m'imprègne le plus, c'est cette rythmicité. Évidemment, celle de la marée submerge l'ensemble. Évidemment, submerge, le terme tombe bien, mais je crois que c'est plus que cela.
L'île est attaquée de tous les côtés par la mer montante. Celle-ci est tentaculaire, avance rapidement en remplissant peu à peu les petites dépressions qui finissent par se rejoindre et former la surface unie de la mer conquérante. C'est fascinant de voir ces petites poches se remplir rapidement comme du métal en fusion. Ce sont de petites mains aux doigts crochus, comme les extrémités des vagues d'Okusai. Et ça bouge dans tous les sens, partout, sur des kilomètres de sable avant d'être le silence du miroir de lumière. Tout est appelé à disparaître. Toute la vie des sables va reprendre. Les vers, les algues charriées traînant leurs pierres, les coquillages qui dansent et qui roulent, les queues de poissons qui laisseront le double virgule de leur balayage. Au sec à nouveau, ce sera silence, vie pétrifiée, se desséchant peu à peu, acteurs et décors redevenus silencieux, voire partis. Deux fois par jour, dans un silence puis dans l'autre, la marée, l'engloutisseuse. Depuis le plus haut caillou de l'île, je regarde cette mer qui assaille l'île, qui fait tant de bruit. Les avancées des rochers vers le large sont autant d'armées de guerriers protégeant l'arrière. Longues traînées brunes, noires et violettes, que prolongent les traînées d'écus. Le tout joue une farandole cosmique.
Comment, lorsqu'on est chercheur, dialogue-t-on avec ce type de texte, de savoir, d'imaginaire, cette farandole cosmique qu'évoque Yvon Lecor ?
J'aurais tendance à dire, comment peut-on vivre sans ça ? Mes premières recherches ont porté sur ces zones d'estran sableux. C'était dans les années, au tout début des années 80. Et il s'agissait de comprendre le fonctionnement de plages du Nord Finistère. On était peu de temps après la Mococadis, et on était à un moment où se développaient les premiers élevages de palourdes. Et donc, il fallait étudier la façon dont les semis de palourdes pouvaient intégrer ce milieu qui avait été très violemment perturbé, et comment, finalement, le reste de l'écosystème allait réagir. Et finalement, aborder un estran à basse mer pour y travailler, c'est quelque part marcher au fond de la mer. C'est extrêmement poétique en soi, c'est quelque chose d'inouï. Et c'est, on ne peut pas approfondir un sujet, y passer sa vie, ce n'est pas une réponse ou un élément de réponse au pourquoi de l'existence. Et je crois que ce ressenti, cette farandole de la vie sur un estran, eh bien, c'est une composante permanente de celui qui va chercher. Nous ne sommes pas des mécaniques, nous ne sommes pas face à une mécanique, nous sommes du sentiment et nous sommes autre chose. Et finalement, ces questions rentrent dans les actualités plus brûlantes et peut-être plus actuelles. Dans les années 2010, il y a une quinzaine d'années maintenant, ou il y a un petit peu avant, on se posait la question de l'impact des échouements d'algues vertes sur les plages, et on travaillait sur la baie de Douarnenez et sur l'anse de Dinan. Et la question était à ce moment-là, ou la question que personne n'osait poser, c'est qu'est-ce que les algues échouées vont produire en termes d'impact sur les communautés de ce sable, de ces plages. Et donc, avec des collègues de l'IUM, avec des collègues du laboratoire, avec des doctorants, nous avons travaillé sur l'impact écologique de ces échouements d'algues qui modifiaient complètement, en fait, l'écologie de ces plages, qui sont en plus des plages qui portent une seconde poésie, c'est que ce sont des nurseries de poissons. C'est un lieu important des stades les plus fragiles de nombreux poissons plats, notamment en baie de Douarnenez, mais c'est vrai sur les plages des Abers en Bretagne-Nord également. Et donc, cette destruction du beau par les dystrophies causées par nos activités, évidemment, ça m'a motivé. Donc, il faut savoir que le rationalisme ne suffit pas, qu'une vie, c'est ça et beaucoup d'autres choses.
« 21 septembre, dernier jour de l'été, et la mer monte, monte inexorablement. Elle va tout recouvrir. On ne peut la regarder à contre-soleil, mais au ras des pieds, on la voit tentaculer, encercler, envahir des coupelles qui deviennent très vite chenaux à turbulence, juste opposées à ce qu'il y avait avant. Elle monte, elle va tout recouvrir. C'est le linceul qui cachera la grève, et en partie les rochers du large. Elle monte sournoisement, sans bruit, inexorablement, immense manteau de lumière qui noie tout, la confusion. Est-ce du plomb? Du mercure? Fantastique puzzle qui se fait et se défait, s'étire, revient en arrière, se rejoint au gré des entonnoirs où déjà chantent les coqs palourdes, prères de ce retour de la vie. Non pas angoissante, elle est seulement rythme de la nature, saison après saison, manteau qui couvre la vie, manteau qui aidera à passer l'automne, comme le manteau que l'on met sur celui qui jamais plus ne se relèvera.
En quoi le compagnonnage avec les œuvres d'Yvon Lecor inspire-t-il, nourrit-il aujourd'hui ton travail, pour autant qu'il soit possible pour un chercheur de déceler, d'élucider, de démêler cela?
Oui, c'est très difficile à démêler. On n'est pas, enfin, je ne peux pas, moi, être une entité qui laisse à la porte de mon bureau toutes les images et toutes les musiques qui accompagnent ma vie. Et donc, que ce soit Yvon Lecor, que ce soit les descriptions de Victor Hugo, que ce soit la poésie des Japonais, tout cela, je l'ai dans mon travail. Je ne dépose pas à l'entrée. Donc ça m'accompagne, oui. Si un jour je rentrais dans mon bureau et si tout ça m'avait oublié ou si je l'avais oublié, je pense que je changerais de travail tout de suite.
Merci beaucoup à toi Yves-Marie d'avoir pris le temps de faire découvrir ce livre magnifique. Et puis plus encore, merci aux auditrices et aux auditeurs de Littoraux Poétiques. Les épisodes de Littoraux Poétiques sont disponibles sur les sites internet du groupement de recherche Océan et Mer, de l'École des hautes études en sciences sociales et de nos radios partenaires que je remercie chaleureusement. L'ivresse des grèves d'Yvon Lecor a été publiée aux éditions Ouest France.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Littoraux Poétiques, épisode 2, autour de l'ivresse des grèves de Yvon Lecor. Une émission réalisée par Radio Évasion avec Alix Levin, anthropologue au CNRS au laboratoire Amur, et Yves-Marie Paulet, professeur de biologie marine à l'Université de Bretagne Occidentale. Littoraux Poétiques, une émission proposée par le groupe Poète du groupement de recherche Océan et Mer, avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et de Radio Évasion. Une émission à réécouter sur Radio Évasion, sur la page podcast de l'EHESS ou sur le site GDR Océan et Mer.